noir. Puisqu'il y a interdiction de manger le sang, interdiction que les chrétiens n'observent pas. Et non seulement ça, ils l'ont ritualisé dans le rite de la messe, en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un doute, même si un chrétien ne doit pas se déchristianiser pour être ben noir, pour être juif, kolchéken, à plus forte raison. Vous comprenez le... Mais pour les musulmans, par exemple, ça ne fait pas de problème. Pour des athées de telle ou telle tradition, ça ne fait pas de problème. Aux conditions des sept mitzvot des bnei noirs, ils peuvent être bnei noirs. Attendez, je n'ai pas terminé. Voilà pourquoi je vous dis ça. Je dis qu'en principe, n'importe quel homme, quel que soit son passé de lignée, peut devenir Israël. Mais il arrive qu'on doive prendre acte qu'il y a des obstacles à cette régularisation d'identité venant d'eux. Parce que leur particularité humaine s'est faite tellement différenciée que la greffe ne peut pas tenir. J'emploie un terme des évangiles. La greffe ne tient pas. J'ouvre une petite parenthèse, là, je rappelle une discussion que j'ai eue avec des prêtres en France il y a très longtemps, et où ils me citaient ce verset. Il y a une image dans les écrits de Paul, que les chrétiens sont comme un olivier sauvage greffé sur l'olivier domestique. C'est comme ça que traduisent les traductions. Connaissez cette image de la greffe de l'olivier, okay? Alors j'avais dit très naïvement, d'ailleurs à l'époque j'étais jeune, mais je crois que c'était pas tellement naïf que ça. J'avais dit, ben, cette greffe elle a pas pris, tout simplement. Parce que les chrétiens pensent être greffés sur Israël, ils sont pas greffés sur Israël. Ils sont greffés sur des bibles en papier. C'est-à-dire le jour où l'école rabbinique formera les prêtres du christianisme, on parlera de greffe. Mais tant que c'est pas l'école rabbinique qui forme les curés, il n'y a pas de greffe. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je ne sais pas si elle forme des rabbins, mais en tout cas. Et voilà, il faut bien réfléchir à ça. En réalité, il y a une substitution d'identité. Est-ce que c'est clair? Bon, peut-être que de nos jours, certains chrétiens ressentent cela et veulent apprendre à la source du judaïsme lui-même. Mais pendant 2000 ans, le chrétien s'était instauré comme un autre Israël, remplaçant le premier. Pas d'histoire de greffe dans l'histoire. C'est clair jusque-là. Bon. Alors je referme ce problème de greffe en vous racontant une petite histoire. Il y a 4 promotions, je crois, ou 3,5, 3 ou 4. J'avais fait venir un prêtre qui habite Jérusalem pour parler du christianisme à la promotion. Et il y avait une histoire particulière, puisque c'est un des prêtres, c'est pas le père Dubois, c'est un autre, un des prêtres qui ont demandé la citoyenneté israélienne pour vivre à Jérusalem. Il a raconté son histoire et en montrant que indépendamment d'autres facteurs plus personnels, c'est quand il a pris conscience, il avait 20 ans quand il y a eu le nazisme, il a pris conscience de la responsabilité de l'Occident sur l'histoire des juifs, il a voulu savoir qui sont les juifs. Et finalement, que normalement, je le cite, il aurait dû se convertir au judaïsme. Alors un des élèves a demandé pourquoi vous n'êtes pas converti au judaïsme. Il dit, je ne peux pas, je suis goy. Je suis goy, essayez de comprendre ce qu'il voulait dire. Il dit, je ne peux pas. Parce que pour être juif du judaïsme, il faut être juif de la communauté juive. Ça, je ne peux pas. Juif du judaïsme, tout ce que vous voudrez. Mais à condition qu'il ne faille pas être juif de la juiverie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il nous a donné un exemple. Et il faut prendre acte de ça en toute bonne foi. Il y a des hommes qui ne peuvent pas être juifs, qui ne peuvent pas fonctionner comme juifs. Et vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas perçu que la vérité passe par la Bible des juifs. Mais juifs, ils ne peuvent pas l'être. Alors il leur faut un statut. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Il a donné un exemple. Il a dit, je suis alsacien. Il n'y a pas de choucroute cachère. Moi, il me faut ma choucroute. Il n'y a pas de choucroute cachère. Ça n'existe pas, une choucroute cachère. C'est un ersatz, un machin qui ressemble. Bon. Ça, il commence à changer de dire. Un alsacien te dira, c'est pas une vraie choucroute. C'est à lui. Bon. Alors, justement, il y avait dans cette promotion un juif alsacien dans la promotion. Alors, il s'est levé, il a dit, alors moi, j'ai jamais mangé de choucroute. Il a dit, mon pauvre ami, jamais vous n'avez mangé de choucroute. Une choucroute sans cochonnerie, c'est pas une choucroute. C'est clair. C'est ça qu'il voulait dire. Il veut dire, il ne peut pas se passer de sa choucroute. C'est pour ça qu'il ne peut pas être juif. Bon, c'est lui qui a donné cet exemple. Mais vous comprenez tout le profil que ça représente. Ça veut dire qu'on arrive à un stade de différenciation de manière d'homme, de manière d'être homme, qu'on ne peut pas quitter pour la vie juive. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas diagnostiquer cela, que le salut passe par les juifs. Alors, on se cherche un statut. C'est clair jusque-là? Vous avez bien compris? Bon. J'en profite. Ça veut dire que pas n'importe qui, concrètement, bien que n'importe qui, en principe. Parce qu'il y a des seuils d'irréversibilité Alors, c'est le cas où on dira à quelqu'un, il vaut mieux que tu sois un bon goy qu'un mauvais juif. C'est bien clair. Vous avez compris, vous. Alors, là, maintenant, si vraiment c'est le cas où il peut, on lui fait une grande fête. Et on l'appelle Abraham. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'honneur et de la dignité. Qu'est-ce que tu veux dire?
Vous avez dit tout à l'heure que les disciples d'Abraham ont disparu, mais les descendants d'Abraham sont assez restés.
Les enfants, oui. Les descendants, oui.
Et dans le verset, ils disent Hachem Nefesh, Hachem Asun. C'est-à-dire qu'il a fait les âmes.
C'est pas traduit âme. S'il y avait Nechama, je t'aurais traduit âme. Je sais qu'on vous traduit Nefesh par âme, ça on n'a pas encore étudié. Nefesh, je l'ai gardé comme sens provisoire, il y en a d'autres. Une personne, un Nefesh, une personne. Alors, les personnes qu'ils ont faites. Alors, justement, c'est là que je voulais continuer. Alors, la Gemara va répondre à ce problème des conversions de la manière suivante. On se demande, je prends le problème des conversions pour lui-même. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un demande à se convertir au judaïsme? Bon, on a fini sur la première règle, en principe n'importe qui peut, à certaines conditions, mais qu'il y a des cas d'irréversibilité. Vous suivez? Alors, une des réponses du Talmud, c'est qu'il s'agit des âmes de ces personnes-là qui étaient les disciples d'Abraham et de Sarai et qui sont revenues sur terre dans l'histoire beaucoup plus aptes cette fois à rentrer dans le peuple d'Israël. C'est une des réponses. Il y en a une deuxième que je vais vous expliquer encore. Vous avez compris l'idée? Ça veut dire que quand quelqu'un demande la conversion à l'identité d'Israël, ça signifie que d'une certaine manière, son identité est celle de ses disciples d'Abraham de l'Antiquité. Vous y êtes? Qui sont revenus pour régulariser. Donc, c'est une réponse mystique. Je veux dire que vous n'avez pas encore les moyens rationnel d'identifier de quoi il peut s'agir. On a parlé d'une chose mystérieuse, que des âmes reviennent. Okay, c'est bien clair. Mais je vous signale en passant la première réponse. La deuxième réponse est encore beaucoup plus mystique. C'est que eux n'étaient pas du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, mais leurs âmes étaient présentes au Sinaï. Vous trouverez ces deux réponses. C'est-à-dire que les convertis viennent des personnes dont les âmes étaient présentes au Sinaï au moment de la révélation de la Torah. Si vous voulez, c'est une autre manière de dire la même chose, okay, pratiquement. Mais ça fait appel à des notions mystérieuses. C'est la raison pour laquelle je vous donne ça entre guillemets. Okay. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais il faut apprendre beaucoup d'autres choses pour arriver à percevoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que c'est tellement mystérieux que quelqu'un qui n'est pas de la descendance d'Israël vient de rejoindre la descendance d'Israël, qu'on lui cherche une origine para-Israël. C'est très clair. Bon, mais ça revient au même. Ça veut dire que depuis l'origine, l'identité humaine est candidate à l'identité d'Israël, mais les lignées se sont différenciées de manière telle que seuls des individus privilégiés qui sont proches de cette identité d'Israël, pour eux c'est facile. Pour d'autres, c'est devenu impossible. Ça va jusque-là? Ce qu'il faut réintégrer, c'est bien cela. La conversion à l'identité d'Israël, ce n'est pas un changement de catéchisme. Ça ne passe pas d'abord et ou essentiellement par un changement de croyance. C'est un changement d'identité. On change de peuple. On quitte le peuple d'Égoïm dans lequel on est né pour entrer dans le peuple d'Israël, qui est une manière d'être homme bien particulière. S'il s'agissait d'un changement de catéchisme, c'est très simple. On vous fait passer un examen de connaissance, et puis, formalité, on va vous signer, vous êtes juif. Cloum, zéro. C'est pas ça. C'est clair? Ça veut dire que c'est un changement d'identité et non pas un changement de croyance d'abord. Ça va jusque-là? Alors, bien qu'en principe, au niveau du changement des croyances, n'importe qui peut être candidat à la vérité juive, au niveau de l'identité, pas n'importe qui n'est dans les conditions de pouvoir devenir.
Et un juif assimilé.
Un juif assimilé. Par le fait qu'il est né juif, il est juif même assimilé.
Oui, c'est l'identité. Avoir adopté
l'identité juive. Non. Il peut avoir adopté la culture de quelques peuples, son identité est juive. C'est pourquoi tu as bien fait de poser la question, ça veut dire qu'il faut expliquer encore plus, jusqu'à ce que vous ayez à percevoir cela. Attends, j'ai pas. C'est un autre cas. Je veux dire qu'il y a une manière d'être homme qui, quel que soit le contenu des croyances, est ce qu'elle est. Un juif, même athée, fait partie d'Israël. Alors qu'un cardinal, même croyant, ne fait pas partie d'Israël. C'est clair jusque-là? J'ai dit ça un jour à un cardinal, il n'arrivait pas à comprendre. Hein. Mais Je peux même vous dire qui c'est. C'était le père Daniel. Vous vous rappelez du père Daniel?
Oui.
Ben, c'était. Et alors, imaginez l'atmosphère de la discussion avec Daniel. Et comprenez bien cela. Il y a une manière d'être homme qui n'est pas du tout au niveau biologique, puisque n'importe qui peut devenir cette manière d'être homme. C'est clair. Ça ne passe pas au niveau biologique. Mais il y a une manière d'être homme en tant que personne humaine qui est une nation. À l'échelle individuelle, les membres de cette nation peuvent représenter des racines négatives de leur théorème d'identité. Mais font partie de ce théorème d'identité-là. On a dit un peu, mais ce n'est pas tellement une blague, qu'il y a une différence à ce niveau-là entre les goyims et les juifs. Quand un goy est athée, par exemple, ça veut dire qu'il ne croit pas que Dieu existe. Quand un juif est athée, ça veut dire qu'il croit que Dieu n'existe pas. Apparemment, ça revient au même, mais ça n'a rien à voir. Mais réfléchissez bien à ça. En tout cas, ceci pour vous dire que s'il s'agissait d'un changement de catéchisme, et le grand danger, c'est ces conversions par formalité. Je ne crois plus en ça, je crois en ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de devenir de cette manière d'être homme qui s'appelle Israël et qui a son comportement propre dans l'histoire. Pourquoi vous êtes gêné? Parce que vers le dernier siècle de l'exil, l'identité Israël a été entendue comme une identité confessionnelle, alors que c'est d'abord une identité nationale. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire que c'est la grande différence de la manière dont vous étudierez ces choses en Israël ou en diaspora. En diaspora, on va, même si ce n'est pas intentionnel, mais inévitablement, on tombe dans ce piège de présenter l'identité Israël comme une parmi les confessions religieuses, alors que c'est d'abord une identité nationale. Si vous suivez le récit de la Bible, c'est très clair. Ça va juste là.
C'est le premier qui considérait Israël comme une entité religieuse.
C'est-à-dire, il savait très bien que ce n'était pas ça, mais il avait une stratégie politique pour s'intégrer les Juifs de France, et les Juifs de France ont fait semblant de le croire, mais ils se sont fait prendre au piège. Hein? C'est évident. Ça a été une espèce de contrat de stratégie politique. Ça a duré 2-3 générations. Et il y a encore des rescapés de ce temps-là qui savent très bien que Napoléon savait ce qu'il voulait, les Juifs aussi. Mais ça ne trompait personne au début. C'est les descendants qui se sont laissés tromper. Enfin, je vous ai déjà donné cette formule-là. Ce qui m'étonne le plus, c'est les Juifs nord-africains en France actuellement. Comme je vous l'ai rappelé, d'après cette histoire, Israël est d'origine asiatique. Après un voyage en Afrique, ils se sont pris pour des Européens. Et comment ça marche? Un Asiatique, passant par l'Afrique, devient Européen. Bien, qu'est-ce que tu voulais demander, toi? Attends, tu allais lire à l'islam? Bon, à l'islam, tu as encore un cas particulier. Ben, un juif qui se convertit à une autre religion, mais l'islam est un cas particulier, et il est juif, traître. Alors, c'est pire. Ça aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas juif.
Non, je pense que ça va
être... Eh, bon, par exemple. Top. Et bien. Alors, on referme cette parenthèse de en effet, je sais, Rassou de Kharan, qu'est-ce que non. Oui. Naturalisation.
C'est ce que je...
C'est exactement ce dont je parle aujourd'hui. Conversion en français, ça fait partie du vocabulaire théologique chrétien et ça veut dire repentir. Se convertir en français catholique, chrétien, même protestant, ça veut dire se repentir. C'est bien ça. Et alors qu'on employait ce mot-là pour dire la conversion, entre guillemets, au judaïsme, qui est une naturalisation, ça veut dire changer de peuple. Est-ce que vous comprenez bien cela?
Pourquoi vous dites que ça veut dire se repentir? Originellement, ça veut dire se tourner?
Oui, dans le comportement du repentir. C'est-à-dire, lorsque les prêtres chrétiens emploient le mot de converti, ça veut dire ceux qui se repentent. Ceux qui étaient dans l'erreur et qui se repentent. C'est une question au niveau d'un catéchisme confessionnel. Je pense que c'est bien clair. Tandis que ce qu'on appelle conversion au judaïsme, on l'appelle comme ça, avec un mot français d'origine de signification chrétienne, parce qu'on a admis le principe de la fiction que l'identité juive est une identité confessionnelle. Alors que l'identité juive, c'est l'identité d'exil, d'une identité hébraïque et d'une identité nationale. Ça va? Ça vous explique pourquoi il peut y avoir des juifs athées et ils sont juifs 100%. Mais comme il y a des juifs enrhumés. Un juif enrhumé, c'est un juif enrhumé. Un juif athée, c'est un juif enrhumé. Un juif enrhumé, parce qu'il est enrhumé, vous allez dire qu'il n'est pas juif. Vous comprenez ? Ça se soigne. Eh ben, un juif converti, c'était la question de Moshe tout à l'heure. C'est un juif traître. Et si on avait nos tribunaux.
Il reste un juif quand même.
Il reste juif traître. C'est une situation grave.
Et converti
à l'islam, c'est un peu différent. S'il a été converti à l'islam de force, on considère qu'il n'a aucune faute. Parce que l'islam est un monothéisme cachère, il n'est pas idolâtre en étant musulman.
Quand c'est un psy qui se convertit à l'islam, ça fait mal.
Comment ?
Ça m'a
tant de. Oui, c'est l'exemple qu'il a donné. Oui. Bah, ça vous donne l'exemple qu'il faut être fou pour faire ça. C'est ce qu'était Sarataï Tzvi, la folie des grandeurs. Bon, on lui a offert. Il y a eu beaucoup de juifs qui se sont convertis au christianisme parce qu'on leur a offert des situations dans l'église. Okay. Bon, comprenez, je crois que ça vaut la peine parce qu'on est quand même à la racine, mais en plein dans le sujet. La Torah nous raconte l'histoire de l'émergence du dedans de la civilisation de ce temps-là, d'une manière d'être homme, la manière d'être homme hébraïque, qui va engendrer la nation d'Israël. C'est clair ? À partir du moment où cette nation est là, c'est le clan Israël, un individu peut rentrer dedans. Mais tant qu'elle n'est pas là, il ne peut pas y avoir de mélange. Ça va jusque-là ? Tout va bien ? Bon. Et encore une fois, comme on l'a vu, un individu a certaines conditions près. Le club des pêcheurs à la ligne.
Et puis, il y a une femme juive qui a des enfants, et qui se convertit à l'église. Est-ce que ces enfants, est-ce qu'il faut qu'ils fassent une...
Je vais te dire, ça dépend des règlements des communautés. Mais d'après la halakha stricte, même si elle était convertie au catholicisme avant d'avoir ses enfants, les enfants sont juifs. Bon, il faut faire une petite lessive, je ne sais pas comment. Ça s'arrange, je veux dire. Et c'est là déjà que nous sommes. C'est là déjà que nous sommes sur ce principe très important. Que l'identité va passer par la mère. C'est clair ? Et on va l'avoir dans l'histoire d'Abraham. Sarah ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham peut. Voilà, avec Agar, il a Ishmael. Et il se multiplie par centaines de millions d'individus sans problème. C'est clair ? Et j'ai compris. Donc, là où c'est difficile, c'est avec Sarah, parce que Sarah, elle, est la matrice hébraïque. Avec la matrice égyptienne, Abraham engendre tous les ismaélites du monde entier, avec leur bénédiction propre, les puits de pétrole. Si vous voulez, c'est indiqué d'ailleurs à un certain moment au temps de Isaac. Et si vous voulez d'ailleurs avoir du pétrole, vous suivez un arabe, là où il s'arrête, vous creusez, il y a du pétrole. C'est infaillible. Bon. Et puis, Ishmaël n'est pas le fils d'Abraham suivant le récit des engendrements qui mène à Israël. C'est Isaac. Quelle est la différence ? La différence, c'est la mère. Vous y êtes ? C'est bien clair ? Donc réfléchissez à ça. Pourquoi l'identité passe par la mère et pas par le père ?
Et qu'est-ce qui manquait à l'identité ?
Ben.
Pourquoi Sarah ne pouvait pas justement, c'était pas encore le moment d'avoir...
Voilà. Et là, on revient au début de l'explication. Et on va le comprendre d'abord formellement. Il faut une maturité suffisante pour que l'identité au niveau Abraham-Sarai arrive à engendrer le tzaddik au niveau Yitzhak. Si cette maturité n'est pas encore là, alors il y a anticipation et finalement on va avoir une approximation de l'identité qui va faire souche. L'exemple, Ishmaël. C'est clair, au moins formellement. Et je vais vous indiquer tout de suite peut-être une référence. Vous allez prendre un verset qui nous indique pourquoi Ishmaël sera séparé de Yitzhak. Et on va le voir très, très rapidement, et je reviens au cours que je n'ai pas encore commencé. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à démarrer avec ce cours-là. Ça fait un mois qu'on reste sur l'introduction de la préface de l'avant-propos du premier. Bon, vous apprenez quand même ce qu'il faut apprendre, mais en fait, je voudrais bien suivre le texte. Je sais d'ailleurs, c'est parce que vous n'êtes pas encore familier avec l'hébreu. Alors vous allez prendre ça, où ça se trouve, Pachinès. Le voilà. Le verset 9 du chapitre 21. Oui. Verset 9 du chapitre 21. C'est ouvert la fenêtre là-bas? Bon, on la trouve la porte. Alors, 21 c'est Kafalev et 9 c'est Tet. Viens? Bon. Voilà. Et Sarah vit, Vatere Sarah, et Sarah vit, et Ben Agar Mitzri, le fils de Agar l'Égyptienne. Vous voyez comment on l'appelle? On ne l'appelle pas le fils d'Abraham. On l'appelle le fils de Agar l'Égyptienne, Asher Yalda le Abraham, que Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Elle vit, Sarah, ce fils, Metzachek, en train de rire. Voilà. Alors, une histoire qu'on ne comprend pas. Sarah voit cet enfant qu'elle avait adopté, vous verrez dans le contexte précédent. Elle ne peut pas enfanter. Un moment de fléchissement de la confiance, renoncement et générosité. Elle dit, moi je ne peux pas, alors prends ma servante et avec elle, tu auras un fils, au moins que ce que tu représentes reste dans l'histoire, et je l'adopterai. Bon, elle adopte, mais elle voit que cet enfant rit. Alors elle voit que cet enfant rit, elle dit, verset 10,
Patsarek, c'est un biel.
Quoi?
Patsarek, c'est un biel.
Oui.
Ça ne veut pas dire exactement rire.
Sochek. Quelqu'un, Metzachek, ça veut dire rire. Mais on va voir ce qu'il y a dans ce rire. Okay? Sochek, c'est le calme. Metzachek, c'est le calme. Va tomber les Abraham, et elle dit à Abraham, Garesh à Amazot Vet Bena. Renvoie, répudie cette servante et son fils, qui l'oirage Ben Amazot, car n'héritera pas le fils de cette servante, Ingbeni avec mon fils, Imitzrak avec Yitzrak. Bon. Alors, on étudiera cela plus en détail quand on y arrivera. C'est le principe de la séparation entre Ishmaël et Yitzrak, et c'est là qu'on parlera de l'islam et ce que ça représente par rapport à Israël. Et quelles sont les rivalités et contestations qui se produisent. On verra ça assez rapidement. Et simplement, je veux mettre en évidence le fait qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle Sarah, apparemment, on ne comprend pas, Sarah, qui a eu cette générosité jusque-là, subitement décide de renvoyer Ishmaël et Agar parce que cet enfant s'est mis à rire. Je vous signale juste une dimension pour vous montrer ce que peut être comme... gravité, l'approximation. Yitzhak s'appelle aussi un terme qui signifie rire, mais au pluriel. Yitzhak, il rira. Alors qu'est-ce que Sarah voit que Ishmael rit au présent? Oui, il est capable de rire, mais au présent. Ça va suffire pour le disqualifier. Nous qui lisons le texte comme ça, sans l'explication du Midrash, on ne comprend rien. Okay. Alors à l'époque, quand on y arrivera, vous verrez, à travers cet exemple, qu'une approximation d'identité apparemment aussi ténu, en réalité, représente un abîme de différence d'identité, disqualification. Réfléchissez à ça. Apparemment, pour un homme de culture occidentale, on ne voit pas du tout le commencement d'une signification là-dedans. La différence entre rire au présent et rire au futur. Il y a un thème d'identité qui apparaît là, qui est familier aux Hébreux, et qu'on étudiera à travers le Midrash à ce moment-là. Vous comprenez le problème? Le seul fait qu'elle ait vu cet enfant rire au présent va le disqualifier. Alors il faudra faire appel... à la tradition orale, qu'est-ce que ça veut dire pour un hébreu? La différence entre un rire au présent et un rire au futur. Je le mets en évidence simplement pour vous montrer que ça ressemble. Celui qui est capable de rire au futur, celui qui est capable de rire au présent, ça ressemble. Mais c'est une approximation d'identité. Alors tant que Sarai ne pouvait engendrer qu'un riant au présent, Dieu l'empêche d'enfanter. C'est clair? Dès qu'elle est capable d'engendrer quelqu'un qui se réprime de rire jusqu'à la fin des temps, il rira au futur. Vous savez comment on dit en français, c'est une formule de la sagesse populaire messianique. Rira bien, qui rira le dernier. C'est exactement ça. Qui en rit d'abord? Les Babyloniens, ensuite les Perses, ensuite les Grecs, ensuite les Romains, et finalement, c'est Israël qui rira. Ça va jusque là. Et celui qui rit au présent, la Gemara va l'appeler Rachar. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui rit, il est rachat. Réfléchissez à tout ça on rencontrera. Essayez d'expérimenter cela par vous-même. Vous retrouvez un peu le profil du psychique de la messianité juive. Se retenir tant que le monde est dans l'état où il est, pour un avenir où ce sera possible. Je vous ai dit ça formellement, mais je pense que c'est suffisamment clair. Alors là, il y a une dimension de l'identité messianique qui est très claire pour l'hébreu. Sarah diagnostique ça, tchic-tchac. Elle a vu cet enfant, elle dit, ça passe pas par là, comment ? Ça veut dire, approximation, avorte. Il a ses bénédictions propres, mais il est dans un tout autre univers que Yitzhak, qui donnera lieu à l'identité Israël. Ça va jusque-là ? Bon, alors on revient à Lot maintenant, et il me reste pas beaucoup de temps. Alors j'ai court-circuité tout ça, et prenez tout de suite le chapitre 13. Alors on va faire un pacte. Demain, je voudrais terminer avec l'histoire de Lot. Alors demain, vous me poserez des questions éventuelles qu'à la fin du cours, c'est-à-dire après une heure. Okay ? Alors, nous sommes au chapitre 13, je vais donner tout de suite la lecture directe. Oh, il me reste 3 minutes, c'est pas possible, on verra ça demain. Vous allez préparer le début du chapitre 13 et spécialement le verset 6, 7, 8 et la suite, mais surtout 6, 7 et 8. Et vous verrez Rashi sur, avant le verset 14, sur le verset 8 et ensuite sur le verset 14. Alors ça, vraiment, on commencera demain parce que sinon on ne va jamais démarrer. Top. Alors demain je vous donnerai un certain nombre d'indications concernant le programme et retenez que Katie va vous le confirmer, on aura une réunion de promotion sur les programmes jeudi au début de l'après-midi. Puisqu'on n'est pas cours de chant.